en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, les Esséniens et la guerre, tel est le titre, un peu surprenant peut-être pour certains d'entre vous, qui ouvre cet exposé. La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, dit-on, a renouvelé en profondeur la connaissance que l'on pouvait avoir du judaïsme aux deux premiers siècles avant Jésus-Christ et au premier siècle de notre ère. Il n'est guère de problème relatif à cette période charnière dans l'histoire de l'humanité qui ne soit à reprendre, pour ne rien dire, des questions nouvelles qui se posent aujourd'hui. Avant les découvertes dites de Qumran, nom du site où l'on a trouvé les fameux manuscrits, nos informations sur les grandes sectes juives, sur les trois grandes sectes juives, pharisiens, sadducéens, esséniens, se limitaient pour l'essentiel aux notices de Philon d'Alexandrie, de Flavius Joseph et de Pline l'Ancien, au Nouveau Testament aussi et aux écrits rabbiniques. À ces trois parties s'en ajoutera plus tard un quatrième, celui des Zélotes. Donc trois parties plus un et non pas quatre. Or, les manuscrits de la Mer Morte nous restituent par rouleaux entiers des manuscrits hébreux, araméens ou voire grecs, et des milliers de fragments divers dont nul ne songe à contester l'authenticité. Le mouvement essénien, qui était le moins connu des grands courants de la société juive que je viens de mentionner, est aujourd'hui, paradoxe, le mieux connu de tous. Les documents trouvés sur le site de Qumran sont à comparer systématiquement aux notices des auteurs anciens qu'ils éclairent et qui les éclairent d'un jour nouveau. Cette manne qumranienne, cette marée qumranienne s'étendra sur plusieurs décennies de recherches encore. Je ne puis énumérer ici naturellement que certains des rouleaux découverts et quelques fragments araméens importants du livre d'Enoch. Je citerai des rouleaux ou des textes que j'aurai l'occasion d'exploiter par la suite. Citons d'abord la règle de la communauté, qui est en un certain sens un coutumier de la secte, du mouvement, de cette tendance d'où proviennent les fameux manuscrits. Citons aussi le rouleau des hymnes, un recueil de cantiques qui était le psautier de cette communauté. Citons enfin le règlement de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres. C'est ce dernier document totalement inconnu avant sa publication en 1954 qui retiendra toute notre attention. Le rouleau doit être décrit brièvement pour que vous puissiez le visualiser quelque peu. Dans son état actuel, il comporte 19 colonnes. C'est donc un document déjà assez conséquent. 19 colonnes constituées chacun de 17 à 18 lignes. Il manque au bas de chaque page 3 ou 4 lignes. Mais nous avons certainement le début du rouleau et la fin du livre est toutefois manquante. On compte en outre de nombreux fragments du règlement de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres qui ont été trouvés dans diverses grottes de Qumran. Le rouleau n'a pas été trouvé dans une grotte, mais des fragments épars ont été trouvés dans les grottes 2, 4, 5, 6, peu importe ici le détail. Le règlement de la guerre est de structure composite. On s'accorde en général à le reconnaître, bien que le plan de ce document reste encore à établir. Après une introduction générale à la colonne 1, il comporte, semble-t-il, un règlement principal, colonne 15 à 19, et un règlement annexe qui, à certains égards, apparaît comme une recension du premier règlement et qui le double d'une certaine façon, mais qui est plus court, colonne 15 à 19. La première partie est la plus technique, avec ses descriptions et prescriptions. La seconde est plus oratoire, avec ses prières, exhortations et cantiques. La première partie devrait être lue avec une attention spéciale par l'historien des guerres antiques, qui, en dehors des spécialistes des manuscrits dits de la mer morte, n'en ont pas, semble-t-il, une connaissance très précise. La seconde partie est d'un intérêt particulier pour qui s'attache à connaître les idées religieuses esséniennes et appelle une comparaison soutenue avec les autres écrits qumraniens et la littérature apocryphe. J'ai un appareil qui se met en marche bien à tort. Bon. Vous me pardonnez ? J'entends un oui unanime. Bon. Appelle une comparaison soutenue avec les autres écrits qumraniens qu'on a trouvés dans d'autres grottes et avec ce qu'on appelle généralement les apocryphes et pseudépigraphes de l'Ancien Testament. Si on me pose des questions dans l'auditoire, je préciserai ce que sont ces apocryphes et pseudépigraphes qui ne sont pas connus de tous. Dans cette littérature, notamment dans le règlement de la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres, et dans un commentaire biblique, le commentaire d'Habacuc, qui est un commentaire allégorique et inspiré, croirait-on, les Kittim, K-I-T-I-M, ethnies mentionnées dans le livre d'Habacuc, sont ici identifiées aux fils de ténèbres que les fils de lumière doivent combattre avec la plus grande ardeur. C'est en fait, Kittim est en fait un sobriquet par lequel les fidèles de la secte désignaient dans le règlement militaire notamment et dans le commentaire d'Habacuc aussi les légions romaines auxquels les fils de lumière vouaient une haine implacable. Ces sentiments fanatiques seront partagés plus tard sans doute par les oracles sibyllins, les psaumes de Salomon et c'est plus paradoxal, par l'Apocalypse de Jean qui, comme vous le savez, termine le Nouveau Testament. Il est d'autant plus paradoxal que les Kittim aborés soit identifié aux Romains que les armes dont sont dotés les bataillons des fils de lumière sont des armes romaines, comme si les fils de lumière utilisaient les armes de leurs ennemis pour les combattre. Les fils de lumière sont dotés d'un armement que j'ai qualifié de romain il y a quelques instants, et pour autant qu'on puisse préciser d'un contour ferme les kittim, ce sont des armes romaines. Ces armes romaines, dont sont pourvus les fils de lumière, sont décrites les unes après les autres, partie par partie, nommons les boucliers, les jambières, les cuirasses, les épées, les javelots, les bâtons de commandement, les lances encore. Et sont décrites avec une précision d'armurier, de la façon la plus précise soit-il, dans leur longueur, dans leur largeur, dans leur matière. Et on poursuit la description de cet armement par une évocation des inscriptions portées sur les trompettes et les étendards. Sur les trompettes et les étendards sont inscrites des devises guerrières. Je vais vous en donner quelques exemples. Appelé de Dieu, prince de Dieu, commandant de Dieu, chef de famille de la congrégation, prescription de Dieu pour le Saint Conseil, bonheur de Dieu dans les camps de ses saints. Ces inscriptions sont très nombreuses et occupent parfois des paragraphes entiers. En voici encore d'autres sur les étendards, cette fois-ci, qui portent également des inscriptions qui ont pour but de galvaniser l'énergie, l'ardeur des troupes et qui répondent souvent à des spéculations numériques ingénues. Les inscriptions portées sur les étendards de la décurie sont faites, par exemple, sur la harpe à 10 cordes. Et il y a naturellement un rapport entre le nombre des soldats qui composent la décurie et le nombre des cordes de l'instrument. Et quand ils iront au combat, on inscrira sur leurs étendards ce qui suit. Vérité de Dieu, justice de Dieu, gloire de Dieu, jugement de Dieu. Et quand ils s'approcheront pour le combat, on inscrira sur leurs étendards « Dextre de Dieu »,« Moment de Dieu », »,« Mêlée de Dieu », »,« Tuerie de Dieu » et après ces mots, toute la liste de leurs noms. Et quand il reviendra du combat, on inscrira sur leurs étendards « Dieu est élevé »,« Dieu est grand »,« Éloge de Dieu »,« Gloire de Dieu » avec toute la liste de leurs noms. Je saute à la fin du combat et quand ils reviendront du combat, on inscrira sur le standard « Salut de Dieu, victoire de Dieu, secours de Dieu, appui de Dieu, joie de Dieu, action de grâce de Dieu, louange de Dieu » et comme pour toute guerre qui s'achève, « Paix de Dieu ». Ces slogans sont groupés par groupe de 8 et ceci de façon intentionnelle. Mais ces mots d'ordre sur les étendards apparaissent-ils pour la première fois dans les textes de Qumran, dans une évocation du combat dernier, ultime, qui sera livré par les fils de lumière contre les fils de ténèbres? Il ne semble pas. En effet, dans le premier livre des Maccabées, dont nous parlions tout à l'heure, figurent sur les Maccabées au moins 2 slogans semblables. Un, aide de Dieu, et plus loin, toujours dans le même livre des Maccabées, victoire de Dieu, ce qui est le titre même d'un des étendards qumraniens. s'enracinent donc les traditions esséniennes dans un passé plus ancien qui doit être, et ça n'a pas été remarqué jusqu'à présent que je sache, qui doit être celui des guerres maccabéennes, des guerres asmonéennes. Cette guerre acharnée des fils de lumière contre les fils de ténèbres oppose deux camps, celui de la lumière et celui des ténèbres, celui du bien et celui du mal, celui de la vérité et celui du mensonge, celui de l'archange Michel et celui de Bélial, le chef des démons. Ce dualisme, si marqué, porte le sceau des spéculations de l'Iran, qui ont exercé leur influence sur d'autres documents de la secte, notamment sur la règle de la communauté que j'ai mentionnée tout à l'heure. S'oppose là, dans l'instruction sur les deux esprits, ces deux esprits, esprit de lumière, esprit de ténèbres. J'en cite un bref passage. Dans une fontaine de lumière est l'origine de la vérité, et d'une source de ténèbres est l'origine de la perversion. Mensonge, vérité, ténèbres, lumière. Il est à noter que dans le règlement militaire sont décrites non seulement des armes, non seulement les trompettes, leur son appuyé ou non, mais aussi une formation, on hésite à parler d'une formation militaire. S'agit-il de soldats groupés de telle ou telle façon? S'agit-il d'une arme particulière? On a songé à la testudo des légions romaines, mais sur les portes de ce bataillon ou de cette arme sont inscrits les noms de Michel, Gabriel, Sariel et Raphaël. Ces noms ne sont pas quelconques. Les quatre archanges ici nommés contribuent, selon certains témoins du premier livre d'Enoch, que j'ai cité tout à l'heure, pour indiquer qu'on en avait trouvé des fragments araméens à Qumran. Ces quatre noms d'anges sont les membres constituants de la grande tétrase archangélique. Ce sont les quatre anges qui sont à la tête de ce que le règlement militaire appelle les armées des anges. C'est dire que les anges se mêlent et s'associent à tout moment dans les cieux et sur la terre aux soldats, aux fils de lumière qui, confondus avec les troupes angéliques, se mêlent à elles. Est-ce que ce règlement militaire a trouvé des échos dans la littérature juive ou chrétienne ancienne? C'est dans l'Apocalypse de Jean, de façon un peu paradoxale, que nous trouvons l'écho précis d'une tradition orale ou écrite qui remonte, selon nous, au règlement de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. La chose a paru si évidente à certains spécialistes qu'ils n'ont pas hésité à qualifier l'Apocalypse de Jean de règlement chrétien de la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. Avoir dans l'Apocalypse de Jean tout entière comme un écho puissant du règlement militaire. Je me rallie à cette thèse et je ne prendrai appui que sur un petit passage de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 12, au verset 6 à 9. On a là la vision d'une femme qui est sur le point d'accoucher et qui s'enfuit au désert, où, nous précise le texte de l'Apocalypse, elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Il y eut, précise-t-on, une guerre dans le ciel entre Michel et ses anges. Et le dragon, qui est l'adversaire de Michel ici, dont on va préciser aux lecteurs innocents que nous sommes que le dragon qui va être précipité à terre n'est autre que l'ancien serpent appelé le diable et Satan. C'est-à-dire que Michel, l'archange, rencontre personnellement dans un duel terrible l'archange Michel. Rassurons-nous, le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Malheureusement, je vous ai dit tout à l'heure que manquait la fin du règlement militaire qui devait nous décrire une partie dont l'Apocalypse de Jean se fait l'écho, à savoir la défaite de Bélial, du serpent ancien et de Satan. Il fut précipité, le grand dragon, et séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai tenté d'esquisser les grandes lignes de l'exégèse que je proposerai volontiers de ce texte de l'Apocalypse, mais on peut aller plus loin. Il semble bien que la femme enceinte sur le point d'accoucher qui va donner naissance à un enfant mâle, c'est la communauté qui s'enfuit au désert, comme s'était enfuie au désert la communauté de Qumran, et qui va donner naissance au Messie. Les grandes lignes de ce drame cosmique sont tirées du règlement de la guerre des fils de lumière. D'autres textes chrétiens, d'une portée plus générale, témoignent de cette idéologie militaire qui éclate à plein dans le règlement militaire et dont nous avons quelques échos dont on peut faire état. Dans la première épître de Clément, nous avons, parmi les textes qu'a rassemblé Arnac dans un ouvrage célèbre et classique, Militia Christi, la milice du Christ, à traduire littéralement, nous avons ce passage qui témoigne de façon peut-être inopinée de cette idéologie militaire. L'auteur dit « Servons donc en soldats, frères, de toute notre zèle, sous ses ordres irréprochables. Considérons les soldats qui servent sous nos gouvernants, avec quelle discipline, quelle docilité, quelle soumission ils exécutent les tâches qui leur sont assignées. Tous ne sont pas commandants en chef, ni chef de 1000, ni chef de 100, ni chef de 50, et ainsi de suite, mais chacun à son rang exécute ce qui lui est prescrit par le roi et les gouvernants. » Pour chacun de ces termes, nous pourrions trouver des parallèles qumraniens précis. On pourrait poursuivre l'enquête chez Tertullien, chez Lactance, où nous trouverions des tonalités identiques à celles que nous venons d'entendre. Et j'en arrive à ma conclusion, de crainte d'être trop long. Quel rapport y a-t-il entre la guerre et la religion, ce qui est le thème même de notre colloque? Eh bien, religion et guerre plongent au plus profond des cœurs leurs racines et se baignent dans un même sang, celui des combats ou celui des sacrifices, le sang des hommes. Je vous remercie.